Salut Daniel, un petit renseignement généreux. J'ai fait une petite enquête pour savoir si on était passé dans un régime monarchique dans notre pays depuis quelque temps, où le culte de la personnalité de M. Sarkozy était très fort. Eh ben oui, alors mon enquête, comment j'ai fait? J'ai regardé les sites internet des présidences dans le monde. Alors j'ai commencé par le nôtre, où on trouve 7 photos de M. Nicolas Sarkozy en première page sur son site internet de la présidence de l'Élysée. Ce qui est nouveau, puisque en France, la loi veut que c'est la fonction qu'on honore et pas l'homme. Et sur le site précédent de Jacques Chirac, il n'y avait aucune photo en page d'accueil. Mais maintenant, on en a 7. Alors, j'ai étendu mon enquête aux pays voisins. J'ai regardé, par exemple, en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, Gordon Brown, aucune photo de lui en page d'accueil. Par contre, en Allemagne, Angela Merkel, 4 photos. 4 photos d'elle, dont une avec le pape, et une grande quand même. Donc, elle est un peu aussi sur cette voie. Alors, j'ai étendu dans le monde. Je me suis dit, on va aller voir les pays où le culte de la personnalité est très très fort. Par exemple, en Russie, avec Poutine. Eh ben non, on n'a que 3 photos sur la page d'accueil. Et toute petite en plus, vraiment, on le voit à peine. Aux USA aussi, alors là, c'est pareil, Maison Blanche, 3 photos, toute petite. Et puis je me suis dit, bon, on va le faire encore plus fort. On va aller voir le site de la page d'accueil de la Corée du Nord, tu vois, avec Kim Jong-il. Et ben là, surprise, une photo. Donc je pense qu'on a le record, hein. J'ai pas continué sur les autres pays, mais 7 photos en page d'accueil, on a le record. Bon, c'est sympa, parce que je pense que d'ici quelques jours, on aura en plus la photo de Carla, et ça sera que mieux, hein, je pense. Voilà, allez, salut, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. Message important pour vous informer qu'à l'occasion de la journée nationale de mobilisation contre le projet de loi sur les OGM, le collectif des organisations varoises appelle tous les citoyens à un rassemblement devant la mairie de Toulon, samedi 12 janvier à 15h. Pourquoi faut-il se mobiliser? Parce que le projet de loi n'a toujours pas été discuté au Parlement. Parce que la diffusion commerciale du maïs OGM est suspendue seulement jusqu'au 9 février 2008. Parce qu'on ne connaît pas encore le contenu de la clause de sauvegarde, ni sa durée, ni si elle sera acceptée par le Conseil européen. Et parce que nous soutenons José Bové, ses compagnons, et Vivian, notre militante varoise, également en grève de la faim depuis 8 jours. Rendez-vous tous devant la mairie de Toulon samedi 12 à 15h. Les OGM, on n'en veut pas, ni dans nos champs, ni dans nos assiettes. Merci à tous.
Oui, bonsoir, Gabriel de Grenoble. J'appelle à propos de l'émission. Quand j'ai entendu le titre, je me suis dit, on va encore assister à une critique en règle de l'État d'Israël. Ces pauvres petits palestiniens qui sont persécutés, à qui on a pris leur tête, etc. Mais franchement, je dois reconnaître que c'est beaucoup mieux. Le prisonnier palestinien, l'ex-prisonnier palestinien Mahmoud, habitant Jérusalem, et ben, c'est tout à fait touchant et intéressant. Pareil pour la journaliste israélienne. Non, franchement, il y a des progrès. Et ben, pour une fois, j'ai passé un bon moment. Bravo, à la prochaine peut-être. Bye.
Oui, bonjour Daniel et toute son équipe. Ici, c'est Bernard de la région lyonnaise. Voilà, eh bien, ça y est, les otages ont été libérés grâce à Chavez. Alors, les journaleux véreux, pourris, qui n'arrêtent pas de soutenir Henri B, qui disent que c'est un président démocratiquement élu, et après avoir entendu vos émissions, qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté par rapport à la Colombie, que je connaissais pas grand-chose sur ce pays, eh bien vraiment, bravo, bravo de nous avoir informés comme ça, et de savoir qu'Henri B, en fin de compte, est une belle ordure. Hein. Merci, à plus. Oui, bonjour Daniel et toute son équipe, ici c'est Bernard de la région lyonnaise. Voilà, eh bien ça y est, les otages ont été libérés grâce à Chavez. Alors les journaleux véreux, pourris, qui n'arrêtent pas de soutenir Henri B, qui disent que c'est un président démocratiquement élu, et après avoir entendu vos émissions, qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté par rapport à la Colombie, que je connaissais pas grand-chose sur ce pays, eh bien vraiment, bravo, bravo de nous avoir informés comme ça, et de savoir qu'Henri B, en fin de compte, est une belle ordure. Hein. Merci, à plus.
Salut Daniel, salut Christophe, c'est François à Amiens. Écoutez, je vous appelle parce que demain, samedi 12 janvier, on organise avec Fakir à 17h30, salle de Wailly, on organise les fêtes de la résistance, fêtes de la résistance à la fois contre la droite qui se durcit et contre la gauche qui ramollit. Parce que en Picardie, bon, Sarko a beau jouer les Robins des Bois inversés qui prend aux pauvres pour donner aux riches, et puis le trio des Valls, Payon, Hollande, ils ont beau marmonner des inaudibles, les choses sont plus complexes, les choses sont plus complexes, les choses sont plus complexes. Ici en Picardie, Gracchus Vivus bouge encore. Alors on va le réveiller demain samedi avec Gérard Filoche, donc l'inspecteur du travail, avec Serge Halimi, journaliste au Monde Diplomatique. On va réveiller encore Gracchus Vivus avec les trompettes de la rage fanfare, et puis si ça suffit pas, ben on filera Gracchus Vivus un coup de sangria. Voilà, bon, bah, les nantis peuvent trembler, hein, le gombon en avant, il va recommencer par Amiens. Salut Daniel, salut Christophe, bonne journée, ciao.
Alors voilà, un cas de copinage éhonté, ce qu'on vient d'entendre là, c'est François Ruffin qui utilise non seulement la base si j'y suis, mais également l'antenne de France Inter pour faire de la réclame. Moi, à votre place, je protesterai. Je protesterai, ou bien, alors, je protesterai en allant samedi à Amiens, à la fête de Fakir, le journal créé par notre Ruffin François. Alors, il dit qu'il y aura, à côté de Gracchus Vivus, il y aura Gérard Filoche et Serge Halimi, du Monde Diplomatique. Et en principe, mais ça, c'est une surprise, il devrait y avoir également Brigitte Jean-Perrin, qui sera, pense-t-on, souhaite-t-on en tout cas, présente à la fête de Fakir ce samedi à Amiens. Et puis vous avez vu également, dans le genre propagande, ça vous a pas échappé, les tchavistes qui répètent deux fois les messages dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, il y a de quoi protester et vous le ferez, amis modestes. C'est génial, j'en suis absolument sûr. Aujourd'hui, deuxième volet de À travers le mur, dialogue entre une journaliste, pas n'importe laquelle, israélienne, et un activiste palestinien, pas n'importe lequel, Mahmoud al-Safadi. La journaliste israélienne, c'est Amira Haas, et pendant plusieurs années, elle a correspondu d'abord par téléphone portable interposé, puis par courrier avec un détenu palestinien, donc Mahmoud al-Safadi, qui était condamné à une peine de 20 ans, plus de 20 ans de réclusion dans les prisons, charmantes prisons israéliennes. Et un dialogue s'est installé entre eux, long dialogue téléphonique, des notes, des contre-notes, des correspondances, des courriers, etc. Et tout ça a donné lieu à inspirer un spectacle de théâtre qui se joue actuellement à Paris, à Confluence. Ça a commencé le 9 janvier, ce sera jusqu'au 10 février, et c'est au 190 boulevard de Charonne à Paris, dans le 20e arrondissement. Ça s'intitule Murmure, une comédie sur l'enfermement. Alors en marge de ce spectacle, je suis allé en Israël, je suis allé à Jérusalem, où j'ai rencontré les deux protagonistes, Amira Haas et Mahmoud al-Safadi, que j'ai interviewé séparément sur cette histoire. Pourquoi donc? Mais attendez, quand même, le conflit israélo-palestinien, on en connaît un rayon, on en entend beaucoup parler. Vous avez absolument raison. On croit connaître tout de ce conflit israélo-palestinien. Eh bien, c'est pas si sûr que ça. D'abord, dans sa formulation, conflit israélo-palestinien, ça se discute. Ça se discute, et c'est ce qu'a fait l'excellent George W. Bush en reconnaissant la colonisation et l'occupation des territoires palestiniens. Dès lors qu'il y a colonisation et occupation, on ne peut pas dire qu'il y a deux forces égales en présence. Donc le terme même de conflit israélo-palestinien porte à débat. Vous voyez que tout de suite c'est compliqué. Et tout de suite c'est passionnant. Surtout lorsqu'on va là-bas sur le terrain. Parce que vu d'ici, ce conflit est brouillé. L'image de ce conflit est brouillée en grande partie par un petit lobby qui fait régner un terrorisme intellectuel très efficace qui rappelle le terrorisme que faisaient régner les staliniens français au temps glorieux de l'Union soviétique. Sauf que lorsqu'on arrive à Tel Aviv, à Jérusalem, ou qu'on va à Ramallah, comme vient de faire George W. Bush avec ses 45 voitures, eh bien, c'est tout à fait différent. On parle différemment, on parle beaucoup plus directement, beaucoup plus crûment de ce qui constitue la vie, véritablement, des gens, la vie quotidienne des gens, leur espoir, leur désespoir, leurs illusions, leurs désillusions, enfin, bref, ce qui fait la vie, non pas ce qui fait des idées et des rubriques radiophoniques ou autres. Voilà notre sujet aujourd'hui, à travers le mur, avec Amiras et Mahmoud Al-Safadi. Auparavant, encore un message, un seul, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Et celui-là, il est précieux, il est important, parce que c'est une petite réussite de nos repères, les repères de là-bas, si j'y suis. Celui d'Aix bouge.
Bonjour, ici le repère d'Aix-en-Provence. Bonjour à Daniel, bonjour à toute l'équipe. Ce mardi 15 janvier, à Sciences Po Aix-en-Provence, sera organisé un repère absolument exceptionnel. En effet, pendant son trop court séjour en France, Raoul Marc Génard a accepté de nous donner une conférence sur le traité européen. À sa demande, Étienne Chouard l'accompagnera à la tribune pour parler du processus constituant. Si d'aventure nous sommes trop nombreux à cette conférence débat, Sciences Po ouvrira un deuxième amphi relié par vidéoconférence. Soyons nombreux ce mardi 15 janvier à Sciences Po Aix, rue Gaston Saporta, face à la cathédrale. La conférence démarrera à 18h précise. Ce repère est organisé avec la participation des amis du monde diplomatique et du CNR. Très bonne journée à tous.
Tu te rends compte de ce que vous racontez, là? Ça vous semble banal à tous les deux, mais c'est absurde, c'est fou. Il faut que tu sois en prison pour commencer à te dire... Voilà, j'ai enfin trouvé peut-être là le moyen de connaître cette société israélienne qui est juste à ta porte, qui est juste à côté. Il faut tout ça pour qu'enfin tu te dises « j'ai une lucarne ». C'est fou ce que vous êtes en train de raconter.
C'est absurde.
C'est fou. Salut, c'est Daniel Mermel, ben, si j'y suis, avec Amiras, Mahmoud Al-Safadi et Michel Warshavski, à travers le mur. Flight number 2, arriving from... Est-ce qu'on est vraiment à Jérusalem ici? Dis-nous où on est.
On est dans Jérusalem occupée. On est à Anata. Dans le quartier de Anata qui s'appelle Dariat El Salam, qui est la partie annexée à Jérusalem de Anata.
Tu as passé 18 ans en prison?
Ok.
Allô? Oui.
Bonjour.
18 ans.
J'ai reçu votre numéro par un de vos représentants. Je suis journaliste.
Comment vous êtes arrivé à cette relation avec ce prisonnier palestinien, avec Mahmoud?
Il y avait une des nombreuses grèves des prisonniers.
En août 2004.
En août 2004.
Allô? Il faut que je comprenne, que je vous dise qu'en fait, on peut se parler. Pour répondre à vos questions, je suis ici, j'ai l'âge de 22 ans. Et j'ai été condamné à une peine de 27 ans sur la base de mes aveux.
C'est les militants du Front Populaire qui est à Ramallah.
Ils
m'ont dit, si tu veux savoir plus sur la grève, voilà le numéro de téléphone de Mahmoud. Et il te dira.
Quand est-ce que tu la rencontres pour la première fois? Longtemps vous faites que vous parlez?
Ah, matai bagashtata. Zaya bakel ramle shehi biksha le likanes lakel lirayanote haya ze bi 2006.
Je la rencontre pour la première fois en 2006, puisqu'elle demande, elle obtient l'autorisation de venir faire un interview avec lui.
Tu la connaissais déjà physiquement, tu l'avais déjà vue?
שלחה לי תמונה.
Elle avait envoyé une photo.
Elle t'avait envoyé une photo. Et toi aussi, t'avais envoyé une
photo.
Dans ma tâche, alors, ta tmona. Et il a ta tmona, tu l'as qui. T'as l'os de Gramalla, là, elle a posé.
Non, elle avait vu ma photo, puisqu'on avait fait un poster. Il y avait des posters des prisonniers. Entre autres, il y avait un grand poster de lui à Ramallah. Et elle avait visité, avant de me rencontrer, elle avait visité ma famille, donc elle avait vu des photos.
Ah, d'accord, d'accord. Vous voyez la tête que vous aviez. Mahmoud Al-Safadi qui nous reçoit dans sa maison à, dans Jérusalem-Est, dans un quartier très difficile, très dur. De Jérusalem Est où il vit maintenant après avoir été libéré il y a un peu plus d'un an et quatre mois après avoir séjourné 18 ans dans les prisons israéliennes. Ils sont aujourd'hui 11 000, pense-t-on, 11 000 Palestiniens, des combattants palestiniens, ce qu'on appelle des terroristes et que d'autres appellent des résistants, dans ces prisons palestiniennes, israéliennes, pardon. Mahmoud est un homme du FPLP, c'est-à-dire le Front Populaire, c'est-à-dire l'aile gauche de la résistance palestinienne. Et au cours de son séjour, ce qu'il a commencé à nous raconter hier, il a structuré complètement sa vie, se levant à 6 heures du matin, faisant des exercices physiques. D'ailleurs, c'est un petit baraqué très musclé qui continue à faire des exercices régulièrement au cours de la journée. Et il a structuré complètement sa vie autour de l'étude, la lecture, les réunions à l'intérieur de la prison. Si bien que, et bien, au cours de ses années passées là, il a appris beaucoup de choses. Il s'est inscrit à des cours d'histoire, des cours de sociologie par correspondance. Et puis, et c'est l'objet de cette émission et de ce spectacle, Murmure, donc, il est rentré en correspondance avec Amiras, qui, elle, est une journaliste israélienne, juive israélienne, très célèbre par le fait qu'elle vit dans les territoires palestiniens. Elle vit maintenant actuellement à Ramallah. Auparavant, elle a vécu des années dans la bande de Gaza. Donc, elle connaît cette société intimement. Elle est connue, elle est respectée, régulièrement mise en cause, aussi bien par du côté israélien que du côté palestinien, tant elle ose dire aux Palestiniens ce qu'elle pense d'eux, elle qui les observe. Et dit-on du côté palestinien, Amira Az peut dire aux Palestiniens des choses que les Palestiniens ne peuvent pas dire aux Palestiniens. Et elle le fait aussi du côté israélien, comme un certain nombre d'Israéliens courageux, militants, battants, qui croient toujours, malgré les années, malgré les échecs, à un jour cette paix qui ne pourra pas arriver comme ça par un claquement de doigts ni par une invocation, mais qui sera le fruit de ces combats, de ces rapports de force, de ces guerres de mots, et qui arrivera inévitablement un jour, on ne sait pas dans quel état et avec quel visage. En tout cas, ces deux-là nous disent autre chose de ce conflit. Ils nous disent une intimité de ce conflit, une intimité à laquelle on n'est pas habitué dans les informations qui nous parviennent. Peut-être dans la littérature israélienne, peut-être dans les films, on peut comprendre et sentir ça, mais là, c'est de la radio, c'est là-bas si j'y suis, jusqu'à 16h sur France Inter, à travers le mur. مش عارف ايش بيصير يا دوب فتحت عينك دمعت يا دوب فتحت قلبك توشعت يا دوب انضميت إلنا شفنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم خيره كل فكر انه احسن من خيره بس هو يستطيع
تستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم أمن انت غير عنا قلبك نظيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك إياه طالب حياة كلها مساواة إذا حد قالك اكره قوله لا أنا ما بكره حد أطفالي اليوم بدنا نغير الغد طريق للمساواة كتير كتير طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهابي انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمانة في ناس معك ماشي لانها حزانة عالعرب المسكين بتكاش هالمساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكوت انت احكي اللي بحساسك تسحيش فيش بيها عيب احنا وقعنا انت وقف عالجريك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي ودمي ارفعوا لنا روسنا
Le procès ressemblait à quoi ?
C'est
une pièce de théâtre.
Et là, tu as pris 27 ans.
Oui. Qui a été à l'intifada ? Quand on a dit Yerushalmi, c'est un pire بجبلهم لخين أصول له شوم بولا بتوخا يورشلايم وتتصري كيلو لعصوت مزه chez le Mudo, chez Assoul, en soit,
moi je suis pour l'exemple. Oui, pour l'intifada. C'était exprimé par une forte peine, très clairement, qu'on ne tolérait pas l'intifada à Jérusalem.
Mais tu étais considéré comme politique.
C'est le politique,
terroriste en fait. Terroriste.
Il y a Zekatou,
Et le mot terrorisme apparaît dans l'acte d'accusation. En Israël, il n'y a pas, alors note en bas de page, en Israël, il n'y a pas de reconnaissance du statut de prisonnier politique, qui est un statut, entre guillemets, privilégié dans beaucoup de pays. En Israël, on reconnaît le statut de prisonnier sécuritaire. Et alors lui, ce n'est pas un statut au-dessus, c'est un statut en dessous. En général, un prisonnier politique a un peu plus de droits que les prisonniers normaux, entre autres, il n'a pas besoin d'avoir une forme dans la plupart des pays. Alors que les Palestiniens arrêtés pour des raisons politiques sont considérés comme détenus sécuritaires et eux ont moins de droits que la moyenne des prisonniers, formellement. Mm-hmm. En termes de visite, en termes de cantine, en termes de plein de choses.
Note en bas de page, combien de Palestiniens politiques dans les prisons israéliennes aujourd'hui ?
Il
y a aujourd'hui 11 000 à peu près, un peu moins de 11 000 Palestiniens détenus pour les raisons politiques.
Combien sont considérés comme ayant du sang sur les mains ?
J'ai pas les chiffres exacts, mais je pense pas que ce soit au-dessus de 300-400. Ouais, c'est un chiffre juste.
Alors c'est Michel Warchavski qui traduit et qui fait ses commentaires, lui qui est un activiste israélien très engagé dans la défense évidemment de la paix. Et reste tout récemment une organisation israélienne, Yesh Din, a publié un rapport sur les tribunaux militaires israéliens qui, depuis 1967, ont jugé plus de 150 000 Palestiniens. Or, cette association a suivi ces jugements et la façon dont les autorités militaires les rendent, ces jugements, et sur 9123 cas qu'ils ont examinés en 2006, seules 23 personnes déférées ont été reconnues innocentes. Et Yesh Din a établi que la décision de maintien en détention était acquise en moyenne au bout de 3,4 minutes. et que la reconduction de l'emprisonnement était en moyenne expédiée en 1 minute 54. Il faut, en général, 2 minutes pour envoyer quelqu'un en prison avant que la procédure d'enquête soit terminée, indique le rapport de Yejdin. Là, on est avec Mahmoud Al-Safadi, qui, lui, a séjourné 18 ans dans une prison israélienne. Mais dis-moi, dans quelles conditions tu as été arrêté et à quoi ressemblait le jugement ?
Ken, ani tafsouti ahare kmat khodesh matalat amatsarim chi hayou lhavrim chili.
Moi j'ai été arrêté un mois après que nos réseaux commençaient à tomber. J'étais dans la clandestinité évidemment et j'ai été arrêté un mois après.
Oui. בחקירה נשארתי 28 ימים היו קשים מאוד.
J'ai été pendant 28 jours en section d'interrogation et c'était très dur.
Torture?
Et une autre?
Oui. מאוד. כל סוגי ה...
Toutes les formes de torture qu'ils utilisaient.
Qu'ils utilisent toujours?
לא, בתקופה, באינתיפאדה הזאת, ובחמש שנים האחרונים...
Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les...
היום יותר מתמקדים...
Les infiltrés, dans les cellules. Ils écoutent les conversations entre les détenus.
אלה, וגם על ה...
Pendant l'interrogatoire, ils infiltrent des gens à eux pour les faire parler. Ça, c'est maintenant.
Mais à l'époque...
Alors il y a toutes les méthodes d'interrogatoire de l'époque. C'est la cagoule, c'est être mis torse nu, c'est être attaché d'une façon très tordue sur une espèce de petit tabouret où tu hurles de douleur après un certain temps.
Oui.
Oui. C'est des méthodes, c'est-à-dire c'est pas des coups, c'est pas, mais c'est des positions qui au début sont inconfortables et après sont absolument invivables.
כן, וזה נשאר שעות או ימים לפעמים.
זה נשאר כבר די ג'ור.
בלי אוכל, בלי שתעשה את הצרכים שלך. אתה עושה את זה על עצמך.
sans nourriture, sans compte libre pour aller aux toilettes, tu fais tout sur toi.
גם הטרטור, זה קשה, אנשים מתו מזה.
Et il y a aussi ce qu'on appelle le secouage. C'est un mot qui a été utilisé et qui a été longuement débattu à la Cour suprême d'ailleurs. Tu secoues fortement, tu le frappes pas. Mais tu le secoues et les gens en sont morts parce que ça provoque parfois
des lésions.
Plus que des lésions, le cerveau se décolle. Ça a été interdit. On a vu les dégâts, il y a des gens qui en sont morts.
Mm-hmm. Et...
Et des coups, il y a tout le temps des coups.
Mm-hmm. Ça fait quand même quelques milliers de Palestiniens qui ont été torturés de cette façon.
Ouais, oui.
Oui, Shanashim Shinshiro Adayo. את ההשפעה של העניינים על הגוף שלהם.
Il y en a beaucoup qui ont des séquelles physiques ou mentales.
ויש אנשים, כמו שאמרתי, מתו, עשרות.
Il y a des dizaines qui sont morts sous la torture.
באותו שנה שהיינו בחקירה, נפטר אחד מהחזית, מוסטפא עקאווי, כן.
La même année où moi-même j'étais interrogé, est mort dans le même centre d'interrogatoire un militant du Front Populaire, Mustapha Akaoui. Et quiconque a passé cette expérience ne l'oubliera jamais jusqu'à la fin de ses jours.
Et comment tu tiens le coup ?
28 jours, c'est pas beaucoup, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire.
Tenir le coup pendant 28 jours, c'est finalement pas tellement. Il y en a qui ont tenu le coup pendant des mois ou qui ont craqué et sont morts.
Mais sauf, je suis honnête, mais je suis morte à ce moment.
Mais finalement, après 28 jours, j'ai avoué ce dont ils m'accusaient. Et alors, ils ont arrêté les tortures. Après 28 jours.
Et tout le temps, je me souviens que le jour où j'ai audité, זה מאוד היה לי קשה, גם אחרי שנים אפילו.
Lorsqu'après 28 jours, j'ai avoué.
היום שאני אפילו מדבר על זה.
Même si j'ai donné personne, tout le monde était déjà arrêté. Il y avait personne qui a été arrêté suite à mes aveux.
שרק שתודי שאומרים לך...
Ça a été très dur. Et même jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'y pense, quand je me souviens que...
זה קשה.
J'ai avoué. J'ai craqué, j'ai du mal à l'assumer.
J'ai honte ?
Oui, le fait que j'ai parlé. J'ai été puni en prison par le parti, par l'organisation. On m'a dégradé dans le parti parce que j'ai parlé. Tous ceux qui craquent dans un interrogatoire, on les... dégrade. Ça aurait été Georges Rabache en personne, il aurait été dégradé aussi.
Alors ton premier jour en prison.
הייתי מאושר מאוד, כי אני נפגשתי עם החברים שלי, כי ראיתי אותם כולם בחדר, וחודש כמעט אני לא ראיתי אותם, וחיבקתי אותם, והתחבקנו אפילו, בכינו, ואחר כך עשיתי מחקלחת, כי אני הייתי, היה לי ריח, וזה...
Exactement, les mêmes sentiments, ce qu'il raconte.
C'était avec lui, toi.
Ouais, et pourtant, ce n'était pas les tortures et ce n'était pas si longtemps. Mais un sentiment de libération. Tu retrouves les copains, tu vas dans une cellule normale, tu te douches parce que tu pues, tu es sale, un mois d'interrogatoire où tu ne te laves pas, et tu te sens libre parce que tu retrouves les copains, tu es heureux, on s'embrasse, on se serre dans les bras et on pleure même.
Mais ça, c'était avant le jugement.
כן, כן, אני נשארתי שנה שלמה על מדר הדין, אני שנה לפני שנשפטתי.
Oui, j'étais un an en préventive, tout ça c'était entre l'interrogatoire et le procès.
Allô, bonjour, monsieur Rabache. J'ai reçu votre numéro par un de vos représentants, je suis journaliste. Vous est-il possible de me rappeler pour me donner des informations concernant votre grève de la faim? Merci.
Alors, lui, il nous dit ça a été pour moi comme une lucarne qui s'est ouverte, qui m'a permis de comprendre la société israélienne.
Oui.
Oui, il s'appelle Al-Atsma.
Il voulait savoir ce que je faisais en prison, ce que je lisais, ce qui m'intéressait. Et moi, je voulais savoir sur elle des choses. On a commencé à parler sur d'autres sujets. Bon, par exemple, la question de l'Holocauste. C'est pas que j'avais pas entendu parler, mais j'avais très peu de moyens d'avoir une vraie connaissance. À part Edward Said et Azmi Bchara, qui allait à contre-courant d'une position fondamentalement négationniste. Mais c'est grâce à Amira que j'ai eu un accès à la littérature, à une connaissance livresque qui est beaucoup plus étoffée de ce qu'était la tragédie des Juifs.
Il a fallu ça. Il a donc fallu que cet homme, ce militant, combattant, palestinien, passe ses années de prison pour découvrir ce qu'était l'histoire des Juifs, l'histoire de l'Holocauste, et puis aussi la vie quotidienne de ses voisins juifs israéliens. Sur ce thème de l'Holocauste, de la connaissance que les Palestiniens peuvent avoir de l'Holocauste, je me souviens, en septembre 2003, nous étions en reportage à Ramallah, et sur les murs de cette ville, on voyait en noir et blanc le portrait d'un homme qui venait de mourir, et c'était Edward Said dont on vient à l'instant de parler. Et on était assez surpris que les hommages lui soient rendus, mais dans des milieux relativement limités, intellectuels. C'était pas la grande adhésion. Et pourquoi cela? Parce que c'est un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à se battre, à s'engager aux côtés et parmi les Palestiniens. Et bien, c'est que très souvent, Edward Said a engueulé, on peut dire comme ça, ses compatriotes, ses congénères palestiniens, et notamment sur cette histoire de l'Holocauste. Je vous conseille la lecture d'un article qu'il a donné dans le Monde diplomatique de août 98 sur cette question, au moment où des thèses selon laquelle l'Holocauste ne serait qu'une fabrication des sionistes circulaient à travers le monde arabe et aussi le monde palestinien. Et Edward Said condamnait évidemment cette thèse absolument inacceptable et disait qu'il fallait absolument que les Arabes en général et les Palestiniens aussi prennent mesure, prennent conscience de la souffrance des autres et évidemment des Israéliens et des Juifs israéliens, quand bien même il s'agit de nos oppresseurs. Disait Edward Said, dire que nous devons prendre conscience de la réalité de l'Holocauste ne signifie aucunement accepter l'idée selon laquelle l'Holocauste excuse le sionisme du mal fait aux Palestiniens. Au contraire, reconnaître l'histoire de l'Holocauste et la folie du génocide contre le peuple juif nous rend crédibles. Pour ce qui est de notre propre histoire, cela nous permet de demander aux Israéliens et aux Juifs d'établir un lien entre l'Holocauste et les injustices sionistes imposées aux Palestiniens, établir un lien et du même coup le mettre en cause pour ce qu'il recouvre d'hypocrisie et de déviation morale. Et c'est ça qui s'est passé entre ces deux-là, c'est-à-dire qu'Amir Haas a expliqué et permis à Mahmoud al-Safadi de comprendre tout simplement ce que la guerre, ce que le combat, ce que ce conflit empêche aux uns et aux autres de voir alors qu'ils sont si proches. La chose qui est la plus frappante qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est oui, Amira m'a fait comprendre beaucoup de choses sur les Israéliens, sur les Juifs, et elle m'a fait comprendre ce qui est très difficile pour nous à comprendre et à accepter, c'est l'Holocauste.
אבל הייתה למחמוד כבר קודם פרדיספוזיציה של הבנה. זה מה שהפתיע אותי, שהוא שם לב, הוא קרא בספר של בשיר אל-חיירי.
Il avait une prédisposition, et par exemple, il avait lu la postface que j'ai écrite au livre de Bachir el-Khairi, un militant palestinien. Et contrairement à beaucoup de Palestiniens, ça fait 12 ans que je rencontre et que je suis en contact avec des Palestiniens qui ne se sont jamais intéressés à ma vie, à moi, à mon histoire, à moi. Et lui a été interpellé par cette partie autobiographique, quelque part, qu'il y avait dans cette postface au livre en arabe. Et c'est peut-être là que notre relation a basculé d'une relation journaliste-prisonnier à une relation égale.
כי הוא שם לב, הוא אמר ששני דברים הוא שם לב באחרית דבר שלי.
Il a dit qu'il avait appris deux choses dans cette postface.
האחד זה שבעצם הוא למד שכל אירופה השתתפה ב...
La première, c'est que la solution finale était possible...
גרמניה כובשת וכל השאר קורבנות.
À cause de la collaboration de toute l'Europe. Et pas simplement une occupation allemande qui s'en prenait aux Juifs, mais qui avait... un phénomène beaucoup plus large.
והדבר השני הוא שכשהיהודים חזרו למקומות שלהם, כמו ההורים שלי, החברות בעצם לא קיבלו אותם.
Et la deuxième chose qu'ils ne savaient pas non plus, c'est lorsque les rescapés sont rentrés chez eux, les sociétés, leur société ne les a plus acceptés.
כי מה שאני רוצה להגיד שהפרויקט הציוני לא היה מצליח בלי הציונות, בלי השואה.
Et en fait, ce que j'essayais de dire et ce qu'il a compris, c'est que le projet sioniste n'aurait jamais pu réussir sans l'Holocauste.
ושהרבה מהיהודים שבאו לפה לא באו מכיוון שהם קולוניאליסטים אלא באו כפליטים כמו ההורים שלי.
Et que beaucoup de juifs qui sont venus ici comme mes parents ne sont pas venus comme dans un projet colonisateur et comme des colons mais comme réfugiés.
C'est une très très grande différence, une grande différence entre ceux qui ont pris Israël comme un foyer, comme un refuge, comme un avenir aussi, et ceux qui sont venus pour coloniser les Palestiniens. C'est tout à fait différent.
Et on ne peut pas comprendre Israël si on n'avait pas dans ce contexte précis. Limiter l'analyse d'Israël, la compréhension d'Israël à ses dimensions purement coloniales, déconnectée de son histoire récente, rend impossible la compréhension de ce qui se passe. C'est ce que j'avais écrit dans cette postface que Mahmoud a lu en prison.
Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il dit Amira m'a fait comprendre l'Holocauste. Et il dit ça, c'est très difficile à faire comprendre à mes compatriotes qui, très souvent, y compris mes camarades militants, sont négationnistes, ne veulent pas entendre parler de cette histoire, disent que ça n'a jamais existé, ou que c'était pas 6 millions, et que de toute façon, on s'en fout, et que, par exemple, les Juifs ne parlent jamais de la Nakba, etc. Et moi, ça me frappe beaucoup, si tu veux, de réaliser que c'est tout d'un coup, dans sa bouche, que ces Palestiniens ont cette difficulté, c'est plus qu'une difficulté, à comprendre, comme tu dis, l'un des fondements de l'État d'Israël, mais aussi cette histoire.
אם אנשים היו מוכנים לדבר על הנאציזם ועל השואה, זה רק כדי להגיד שהציונות שיתפה פעולה עם הנאציזם.
Lorsque les gens étaient prêts à parler du nazisme et de l'Holocauste, c'était pour parler de la collusion entre le sionisme et le nazisme.
ואני קצת בצורה קריקטורית אומרת שזה מה שהפלסטינים אומרים.
Je dirais d'une façon un peu caricaturale, ce que disent les Palestiniens, c'est la chose suivante. Ce qu'on dit sur l'Holocauste, c'est pas vrai. Et de toute façon, si c'est passé, c'est bien fait pour vous. Parce que c'est ce que vous faites aux Palestiniens exactement. C'est caricatural un peu.
Mais
c'est malheureusement pas très loin de la réalité.
אבל האמת היא שעכשיו כבר נמאס לי לדבר על זה.
Mais pour être honnête, j'en ai marre de parler de ça.
זאת אומרת, זה כבר לא חשוב לי.
C'est plus ce qui est important pour moi.
זה היה חשוב לי לפני 10 שנים.
C'était important pour moi il y a 10 ans.
אולי לפני 5 שנים.
Peut-être encore il y a 5 ans.
אבל עכשיו אני מצפצפת, זה ממש לא חשוב לי.
Mais maintenant, je m'en fous, c'est plus important pour moi.
C'est-à-dire?
כי obscenity.
Parce que l'obscénité
של מה שישראל עושה,
de ce qu'Israël commet,
אני בכלל לא רוצה, זה כל כך נורא,
c'est à ce point terrible,
שאני מרגישה שאני, אם אני מנסה לעשות ניתוח היסטורי, כפי שעשיתי פעם, שמקשר לשואה,
c'est à ce point horrible que lorsque j'essaye de mettre ça dans un contexte, comme je l'ai fait pendant des années, dans le contexte historique de la création d'Israël, avec le contexte historique de l'Holocauste.
עכשיו זה מחליש ממה שאני מרגישה לאובסניטה הישראלי.
Ça dévalue un peu la force de l'obscénité de ce que je perçois dans le comportement israélien.
אבי שהיה קומוניסט ניצול שואה.
Mon père qui était un communiste et un rescapé de l'Holocauste.
ותמיד הסכמנו שאין השוואה, וגם היום אני אומרת שאין השוואה.
Avec qui j'ai toujours été d'accord et je continue d'être d'accord qu'on peut pas comparer la Shoah à ce que commet Israël.
אמר לי ב-92, כשאני הייתי באה מעזה עם כל הדיווחים, ב-92, שלעומת היום זה נראה יופי.
Me disait déjà en 92, lorsque je racontais les horreurs de Gaza, et 92 comparé à aujourd'hui, c'était le bon temps.
הוא היה אומר לי, ישראל מצדיקה רטרואקטיבית כל מה שאנטישמים אמרו על יהודים במשך 2000 שנה.
Mon père me disait, Israël justifie après coup tout ce que les antisémites avaient dit pendant 2000 ans.
ואם הוא אמר את זה לפני כמעט 20 שנה, מה אני אגיד היום?
Et si c'est ce qu'il me disait il y a presque 20 ans, qu'est-ce que moi je peux dire aujourd'hui?
Ah,
paroles violentes, provocatrices, caricaturales, fréquemment entendues et fréquemment prononcées en Israël par ceux qui, nombreux, qui se, évidemment, qui s'intéressent à leur propre sort, évidemment. Alors, ce qui est intéressant de rappeler, hein, c'est que Amira Haas a longuement, elle vient de le dire encore une fois, vécu parmi les Palestiniens à Gaza. Maintenant, elle vit à Ramallah. Et tout ce qu'elle dit là, elle leur dit. Elle le dit dans ses, dans, non seulement dans ses propos à ses amis palestiniens, mais aussi dans les papiers et reportages qu'elle publie régulièrement dans le journal Haaretz. On se retourne maintenant vers Mahmoud, le détenu qui correspond avec elle à travers le téléphone portable et puis la correspondance.
Et
il dit après, j'ai demandé qu'elle me fournisse d'autres livres pour étoffer ma connaissance, et alors j'ai ouvert un débat. J'ai essayé d'intéresser mes camarades de prison sur cette question, ce qui n'était pas évident.
Et ils sont intéressés ?
Non,
on avait
eu
un débat très dur.
C'est
un des sujets les plus difficiles à discuter et à changer l'opinion qu'ont les Palestiniens sur cette question.
Tu veux dire par là que les Palestiniens, enfin ceux qui étaient par exemple en prison avec toi, des militants, des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui se battent, qui dédient leur vie à une cause, ne veulent pas admettre l'histoire des Juifs, ne veulent pas admettre l'Holocauste.
Il y a une grande difficulté à vouloir accepter cette histoire, cette réalité. C'est pas évident de faire comprendre aux gens, y compris à des militants, que ça ne réduit en rien la légitimité de leur revendication nationale, de reconnaître la tragédie des Juifs. Mais c'est pas évident, c'est loin d'être évident, et il y a un blocage, comme il y a peu de littérature là-dessus. Le peu de livres qu'il y a, c'est des débats, est-ce qu'il y avait 6 millions, ou il y avait moins. Et pas reconnaître qu'il y a là une tragédie qui concerne l'humanité tout entière, un moment tragique de l'histoire qui appartient à tout le monde.
Mais tout comme réciproquement, il est très difficile aux Palestiniens de faire admettre leur massacre, qui évidemment n'a pas les mêmes proportions, mais qu'on appelle la Nakba.
יש פלסטינים או אנשים שאומרים מה שקרה לעם פלסטיני זה כמו השואה וזה לא זה לא נכון
צריך כל זה c'est qu'il faut bien séparer ces deux réalités, ces deux histoires, ces deux moments de l'histoire qui sont la Nakba et la Shoah. Lorsque les Palestiniens disent notre Nakba, c'est la même chose que la Shoah, c'est faux. C'est pas la même chose quantitativement, c'est pas
כל אחד צריך להסתכל על מהזווית ההיסטורית שלו ואיך זה קרה ו
Et il faut regarder chacun de ces phénomènes dans son propre contexte politique, géographique, dans sa propre histoire, et pas mélanger les genres.
Pas de concurrence des mémoires.
Exactement. Exactement. כל המשרדים, כל אפילו חלק גדול מהאזרחים, תוכנית שהייתה ידועה לרצח של העם.
La première grande différence, c'est que le génocide des Juifs d'Europe, c'est un événement programmé, un massacre par un appareil d'État avec toutes ses institutions, ses composantes, avec le soutien d'une partie importante de la population. C'est un plan visant à anéantir un peuple.
שזה סבל וגרוש חלק גדול מהעם הפלסטיני בתקופה ארוכה, ועד היום נמשך הסבל הזה, אבל במצבים אחרים, אני לא, לכן אני אומר, כל דבר אתה צריך לשוות אותו לפי המקומו בהיסטוריה, לא לעשות השוואות בכלל או תחרות.
Certes, les Palestiniens souffrent maintenant depuis des décennies, ont été expulsés en masse, etc. Mais c'est des situations très différentes. Il ne faut surtout pas mélanger et surtout pas mettre en concurrence les souffrances.
Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il dit Amira m'a fait comprendre l'Holocauste. Et il dit ça, c'est très difficile à faire comprendre à mes compatriotes qui, très souvent, y compris mes camarades militants, sont négationnistes, ne veulent pas entendre parler de cette histoire, disent que ça n'a jamais existé ou que c'était pas 6 millions et que de toute façon, on s'en fout et que, par exemple, les Juifs ne parlent jamais de la Nakba, etc. Et moi, ça me frappe beaucoup, si tu veux, de réaliser que c'est tout d'un coup, dans sa bouche, que ces Palestiniens ont cette difficulté, c'est plus qu'une difficulté, à comprendre, comme tu dis, l'un des fondements de l'État d'Israël, mais aussi cette histoire.
Moi aussi, j'ai la difficulté à comprendre, mais je vais essayer de répondre par une histoire.
מתקשר אליי חבר מרפיח, שתמיד מוסר לי מידע מאוד מדויק על מה שקורה.
ונמי דרפח, בטלפון, כלכן כי מדון שוב, זה אינפורמציון טרי פרסיס.
ומספר לי איך נהרגו שלושה אנשים ליד הגבול, ליד הרפיח, ליד ה... כן.
הם רקונט, מדקרי כמו תרועה פלסטיניה, הם התטועה על הפרונטייר אנטרו רפח את אגיפט.
יוצא אחד ומוכר נעליים משומשות או לא יודעת מה, משהו משומש.
כלכן כיסור, כלכן כיוונדה דבי שוסיר.
יוצא החוץ אל הרחוב, יורים עליו מאיזשהו בורש, מאיזשהו מגדל שמירה.
יסור דסה מזון, און ליטיר דסו, דמיר הדור.
והוא נותן לי את השם, החבר נותן לי את השם, שמו מוחמד משהו, לא יודעת מה.
מודון סונו.
ונופל ולא ידוע, מת, פצוע, לא ידוע.
Et il tombe, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Quelqu'un vient essayer de le tirer de là. Il me dit son nom. On lui tire dessus, on ne sait pas s'il est mort ou blessé.
Le
troisième vient.
Il
essaye de sortir les deux autres de là où il
se trouve.
On lui tire dessus. Par contre, de lui, tu ne parles pas.
לא, את לא כותבת.
Tu n'écris pas sur lui.
את השם שלו. את השם שלו את לא כותבת.
Son nom, tu ne le mentionnes pas dans ton article.
למה?
Pourquoi?
כי הוא נולד בשנת 64, או 61, מתי היה משפט, אייכמן? 61. והשם שלו הוא היטלר.
Parce qu'il est né en 61, lors du procès אייכמן, et on l'a appelé היטלר.
עכשיו, החבר שלי יודע...
Son nom, c'est היטלר.
כן. עכשיו, יש הרבה פלסטינים שקוראים להם היטלר, והשם שלהם...
יש הרבה כבוקות פלסטינים כי ספל היטלר.
אבל החבר שלי מרפיה...
ממוקופן דרפח.
הבין שזה דבר שאנחנו לא יכולים לכתוב. כי אם אני אכתוב שהבן אדם שהציל או שבא להציל שני אנשים קוראים לו היטלר, כולם יחשבו על השם היטלר ולא על שני אנשים שנהרגו סתם ככה.
לי את עושית קומפרי כסי שקריבה ללון היטלר, les Israéliens qui diraient se focaliseraient sur le mot Hitler et pas du tout sur le fait qu'il y a une personne sur qui on a tiré puis une deuxième puis une troisième qui est venue.
אבא שלו היה משתף, אבא של ההיטלר הזה, אני הלכתי לדבר עם המשפחה.
Je suis allé contacter la famille de ce Hitler.
אבא שלו היה משתף פעולה.
Son père était un collaborateur avec Israël.
בשביל לנקות את עצמו הוא קרא לבן היטלר.
Et c'est pour se donner une légitimité dans sa communauté qu'il a appelé son fils Hitler.
עכשיו יש כל מיני, אני מכירה כל מיני היטלרים.
Je connais pas mal d'Hitler.
אני מכירה גם אייכמן אחד.
Y compris aussi un Eichmann.
ישבתי עם חברים גם כן של החזית העממית.
Je rencontrais des copains aussi du Front Populaire.
ודיברנו על כל ההיטלרים והאייכמנים שיש.
J'ai soulevé la question de tous ces gens qu'on appelle Hitler ou Eichmann.
ואחד אמר, אייכמן זה יותר מדי.
Et un dit, Eichmann, c'est exagéré.
Ah,
bah, Hitler, ça. J'ai dit quoi, Hitler, c'est bon.
Qu'on finisse avec la politique, à quoi ressemblerait ce pays, cet ensemble, dans 20 ans, 30 ans ?
Je m'occupe, je m'occupe, je m'occupe. עוד 20 שנה לא יחזיק מעמד הכיבוש התקופה הזאת גם הפלסטינים לא יגיעו לאיזשהו פתרון אבל זה לא יהיה פתרון שאני מצפה שהוא באמת יהיה פתרון סופי
je pense que dans moins de 20 ans il faudra pas attendre 20 ans pour qu'il y ait une solution qui n'est peut-être pas la solution ultime à ce conflit mais une solution qui serait celle de deux États qui coexistent, un État palestinien. Ce serait d'abord la fin de l'occupation et un État dans ce territoire où aurait cessé l'occupation avec Jérusalem-Est comme capitale.
גם פתרון לענייני הפליטים, שיהיו פתרון צודק, שהם יקבלו קודם כל את הפתרון הזה. אני לא אגיד מה זה, אם זה מימוש של החלטות האום או לא, אבל שבאמת יהיה פתרון צודק, שהם יקבלו את זה.
Il faut que cette solution... évidemment inclut la question des réfugiés. Pour que ça marche, il faut qu'elle soit acceptée par les réfugiés eux-mêmes.
Merci à tous. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. C'est Yann Chouquet et Koyen Nguyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, Christophe Imbert. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut.